Chapitre 16. Les moulins, avril. Fort heureusement, mon cher ami, tu as su que j'étais sauvé en même temps que tu apprenais la nouvelle de ma maladie, résultat de tant de secousses. Aucun soin ne m'a manqué, aucun dévouement. La sollicitude de M. de l'Étang a été aussi vigilante que délicate. Il a veillé sur moi avec la cordialité qui est le fond de son caractère. Il y a un instant seulement, il me disait adieu en m'exprimant des regrets dont il ignorera toujours la grande ironie. Je pars demain, mais c'est de ce pays où je croyais ne plus revenir que je veux répondre à ta lettre excellente. Tu as bien compris que, sorti de ma convalescence, je t'enverrai des détails précis. Il y a 3 mois que les derniers événements ont jeté leur ombre sur le bonheur de ceux qui vivent heureux à l'étang et laissé dans mon cœur une empreinte ineffaçable. Complètement guéri, je regarde bourgeonner les arbres et apparaître les fleurs en me demandant pourquoi le rajeunissement de la vie physique paraît si profondément amer à ma résignation. J'étais allé moi-même porter mes papiers à la poste. En rentrant à l'hôtel, je trouvai une lettre de Madame Sidoine qui m'annonçait que Catherine était atteinte d'une pleurésie. Dans la soirée, une dépêche de Monsieur de l'Étang m'apprenait que la malade était en danger et demandait à me voir. Nous nous jetâmes dans une voiture, Will et moi, et nous eûmes le temps d'arriver au Quai d'Orsay pour prendre le premier train du soir. Avec l'arrière-pensée et peut-être le secret désir que Catherine aurait, une fois encore, besoin de mon appui, je n'avais donné aucun ordre au sujet de ma maison, me réservant d'écrire plus tard à Olivier. Je partis donc avec l'intention de retourner au moulin. À la gare, Olivier m'attendait, il me savait prévenu par dépêche. Un instant après, M. de l'Étang arriva et me cria « Danger entièrement conjuré. Nous avons eu une fameuse alerte, c'est fini !» Alors il me raconta que Catherine, un peu souffrante, était sortie insuffisamment couverte, que, saisie pendant sa promenade d'une violente douleur de côté, elle avait dû entrer dans une maison et envoyer chercher sa voiture pour entrer à l'étang. Pendant 36 heures, le mal a augmenté avec tant de rapidité que lorsque je vous ai expédié ma dépêche, nous la croyons perdue. Plusieurs fois, elle a répété « Je vais mourir, je veux mes amis. Je veux voir M. d'Hautefort s'il est encore à Paris. » « Elle est hors de danger, vous en êtes sûr ?»« Absolument, nous avons un médecin énergique dont le traitement a maté la maladie. Le côté est en partie dégagé, si bien que la fièvre est tombée hier soir. Catherine a dormi tranquillement toute la nuit. J'ai bien regretté d'avoir envoyé une dépêche aussi alarmante. Désire-t-elle toujours me voir ? Oui, elle demande sans cesse si vous arriverez. Je n'essaie pas d'exprimer mon angoisse indicible en pensant que, sous une forme indirecte, elle avait probablement exécuté sa funeste idée. Monsieur de l'Étang me conduisit chez lui. Au bruit de la voiture, Madame de l'Étang s'avança sur le perron pour me recevoir. « Nous sommes rassurés, me dit-elle, mais mon Dieu, que nous avons été inquiets !»« Dois-je la voir dès maintenant ?»« Oui, elle s'est informée de l'heure à laquelle, selon les probabilités, vous deviez arriver, et elle vous attend. » Mais, avant d'aller chez elle, j'échangeai quelques mots avec Madame de Théré, à laquelle je sus gré de sa manifeste cordialité. J'entrai seule chez Catherine, selon son désir. Appuyée sur des oreillers qui la maintenaient assise afin de faciliter la respiration, elle me parut, après une secousse aussi forte et aussi récente, extraordinairement calme. Son souffle un peu court ne semblait pas être une souffrance, et bien que, dans son regard, il y eût une expression nouvelle impressionnante, elle avait sur les lèvres le sourire de ceux qui sont heureux de leur retour à la vie. « Venez, me dit-elle, vous savez dans quelle inquiétude j'ai jeté les miens. » « Vous revoir ainsi ? » dis-je en lui baisant la main. N'est-il pas étrange, reprit-elle de sa voix fatiguée, que le hasard d'une promenade ait accompli ce que je voulais faire moi-même ? Rien n'est accompli, grâce à Dieu, dis-je avec conviction. Le hasard s'est trompé, chère Catherine. Elle comprit aussitôt pourquoi j'avais appuyé sur le mot qu'elle-même venait de choisir. J'affirme que mon imprudence a été involontaire, je le jure. « Me croyez-vous ? » ?»« Oui, et vous me délivrez d'un affreux cauchemar. »« Je suis trop fatiguée pour parler longtemps. Asseyez-vous près de mon lit sans rien dire. Vous voir me rend si heureuse. » Elle n'avait pas de fièvre, sa respiration était assez libre, et pourtant son expression terrifiait mon expérience. Nous restâmes ainsi très silencieux jusqu'au moment où Madame de l'Étang entra avec un consommé que la malade prit avec plaisir. « Tu n'as plus de fièvre, chérie, quel bonheur !»« Oh, je vais relativement très bien, » répondit gaiement Catherine. « Moi et ceux qui m'aiment en seront quittes pour la peur. » Je lui proposai de me retirer avec Madame de l'Étang, mais elle me retint. « Non, restez un peu. Je vous renverrai moi-même lorsque je ne pourrai plus. » À peine la porte fermée, son regard devint d'une gravité excessive et l'expression redoutée s'accentua. « Gabriel, me dit-elle précipitamment, il se trompe et je les trompe. Je suis atteinte mortellement. Le mieux est passager. » « N'en croyez rien, répondis-je avec calme. Le mal est enrayé et vous êtes sauvé, je le sais. » Elle se souleva légèrement pour regarder autour d'elle en souriant. Sa chambre, sombrement décorée, lui plaisait. « Je suis bien ici, n'est-ce pas ?»« Certainement, dis-je, un peu interdit et ne devinant pas où elle en voulait venir. Et cependant, je vais tout quitter. Chut, laissez-moi parler. La mort est une messagère éloquente, Gabriel. Elle a dissipé toutes les obscurités. Elle vous a frôlé, dis-je en lui pressant la main. Puis elle a fui pour ne laisser que la leçon. Peut-être. J'ai autre chose à vous dire, mais plus tard, devant Madame de Théré. Fatiguée, elle me fit un signe d'adieu et je me retirai sans bruit après avoir promis de revenir dans la soirée. Dans le corridor, je croisai le médecin que j'avais vu pendant mon séjour au moulin. « Elle est sauvée, docteur, n'est-ce pas ?»« Je le crois, à moins d'une rechute. Nous sommes certainement sortis de la crise aiguë. Mais qu'on ne la fatigue pas avec d'inutiles conversations. » Je ne m'attardai pas dans le salon où Madame de l'Étang, entièrement rassurée, me dit « Que c'est bon de respirer. Maintenant, c'est une affaire de temps et de prudence. » Elle est paisible, elle paraît même heureuse, répondis-je machinalement. Il n'y a plus rien à craindre, me dit Madame de Théré, mais je l'ai bien cru perdue, et je vous assure que notre chère Catherine, en face du danger, avait le courage et la résignation des âmes les plus hautes. Je m'inclinai sans répondre. Ce n'était pas le moment de relever un sous-entendu qui me parut absolument déplacé. Après avoir refusé de déjeuner, je sortis, accompagné de Monsieur de l'Étang. « Eh bien, Hautefort, vous ne partagez pas nos espérances. Je l'ai bien vu pendant que vous répondiez à ma femme. »« Non, je crains que, d'une inquiétude extrême, vous n'ayez passé à un optimisme trop complet. »« Avec de bons soins, elle est sauvée, voilà mon opinion. Évidemment, il ne faut aucune imprudence. »« Évidemment, » dis-je d'un ton découragé. « Allons, Hautefort, remontez-vous, que diable! Rien n'est perdu, je vous l'affirme. Mais voir un homme énergique aussi abattu, c'est à se désespérer soi-même. N'oubliez pas que j'ai reçu la nouvelle brusquement, et hier seulement. Je n'ai eu que le temps de m'inquiéter, sans aucun palliatif. Mais puisque le médecin lui-même répond de sa vie, Dieu l'entende !» Olivier et Will avaient préparé un bon feu au moulin avec l'espoir que je me reposerais, mais je m'en allais errer dans le parc dépouillé. Une légère couche de neige recouvrait le sol et des glaçons dentelaient les rives de l'étang. C'est là que, par un beau jour de juin, je l'avais revue femme, femme charmante vers laquelle mon cœur était allé. Les plantes se courbaient sous le froid, les oiseaux transis cherchaient vainement un abri dans les roseaux, la saison suivait son cours, et je me demandais pourquoi. Cette marche normale de la nature était-elle donc la réalité, alors que Catherine se mourait? Mais je me cramponnais tout à coup à un espoir vivace. Elle était jeune, vigoureuse, pleine de vie. Comme l'affirmait M. de l'Étang, rien n'était perdu, et que signifiait mon désespoir alors que tout son entourage la disait sauvée? Je revins rapidement au moulin où m'attendait un modeste repas que mon fidèle William, les larmes aux yeux, me supplia de prendre. « Vous n'avez rien mangé depuis hier et il est 1 heure. Mangez, monsieur, je vous en prie, ou vous tomberez malade. » Olivier voulut me servir lui-même. « vous paraissez moins malheureux, monsieur. J'ai réfléchi que rien n'est désespéré, puisque le mieux s'est déjà manifesté. Et que la malade, continua-t-il d'un ton encourageant, a une excellente constitution. Vers 4 heures, je retournai à l'étang. Aucun changement, ni en bien, ni en mal. Elle me fit appeler avec son amie et madame de l'étang. « Monsieur d'Hautefort, sait-il que j'ai reçu le viatique ?»« Non, répondit sa sœur. « Quand j'étais si mal, reprit-elle en s'adressant à moi, j'ai voulu remplir ce grand devoir religieux. » « Et vous avez eu 100 fois raison, dit affectueusement madame de Théré. Vous l'avez rempli, ce devoir, en comprenant tout le sens de votre acte. »« Certes, tout le sens, répondit doucement Catherine, mais je ne veux pas qu'il y ait d'équivoque. Pardonnez donc, Louise, ce que je vais dire, ce que je tiens par-dessus tout à dire. Je n'interprète plus la communion dans le sens symbolique que vous lui donnez, mais dans son sens catholique littéral. Je crois en elle, comme y croit le plus simple des servants, dit-elle en me regardant. Soyez remerciés pour de telles paroles, dis-je d'une voix qui tremblait malgré moi. Quand vous serez guéris, vous conserverez la lumière et la paix de ce moment. Guéri, oui, dit-elle avec un sourire que je comprenais trop bien. Elle ferma les yeux et nous nous retirâmes aussitôt. Dans le salon, madame de Théré, le visage mécontent, s'assit à l'écart sans daigner m'adresser une seule parole. Que pensait-elle de l'humble et touchante franchise de Catherine? Son esprit était-il trop faussé pour en saisir le pénétrant enseignement? La nuit fut agitée, la maladie ayant une soudaine recrudescence, et, appelée à 10 heures le matin suivant, je perdis la vague espérance à laquelle je m'étais attaché. Une fois encore, elle voulut être seule avec moi. Gabriel, à moi aujourd'hui de vous dire, soyez courageux. Écoutez bien, je n'aurai jamais oublié. Le mieux est donc ce qui arrive. Le cœur brisé, je sanglotais, agenouillé près de son lit. Oh, comme vous m'aimiez! Pauvre ami, ne pleurez pas. Tout est bien. Elle prit ma main et la tint longuement dans les siennes. « Parlez-moi de Dieu, me dit-elle tout bas. Votre parole me fait plus de bien que celle de notre. » Je m'arrête. Je jette un voile sur ce dernier entretien, pendant lequel sa foi, redressée par la suprême réalité, adoucissait ma douleur et atténuait la cruauté de cette fin prématurée. Rien de puéril dans ses recommandations aux siens, rien de personnel dans sa mort si digne et si paisible. Son intelligence se reposait dans la possession des grandes vérités. Elle s'abandonnait, non pas à la divinité d'emprunt que son imagination avait longtemps parée de brillantes couleurs, mais à celui qui s'est penché avec tant d'amour sur l'humanité souffrante. « C'est moi, ne craignez pas !» Elle s'endormit en répétant la douce parole que, la veille, je lui avais rappelée. Paris, mars 1906.